Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'établissement français du sang qui sonne l'alerte. Il manque de sang pour cet été. Le Conseil de l'Ordre des médecins lui demande le retour du masque obligatoire dans les transports. Et puis, début du sommet de l'OTAN, Joe Biden annonce le renforcement de la présence militaire américaine en Europe.
Le procès des attentats du 13 novembre et le verdict attendu ce soir, ce sera notre premier débat vers 12h40 et à 12h50, Covid et sport, après les déclarations d'Alizé Cornet hier. Il y a eu des cas de Covid à Roland-Garros, mais on n'a rien dit.
Notre question du jour sur RTL.fr. Vivez-vous différemment depuis les attentats du 13 novembre 2015? Vous dites oui à 26%, non à 68%. Notre météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et on a droit au soleil sur les trois quarts du pays.
Exactement, entre les frontières du Nord, les plaines du Sud-Ouest, la Méditerranée, donc toutes les régions de l'Est, avec un très beau soleil. Ça reste gris en revanche cet après-midi sur l'Ouest du pays, entre la Bretagne, le Nord et la façade atlantique, avec quelques averses. Et les températures du coup sont en baisse à l'Ouest, de 17 à 22 entre la Bretagne et la Manche, 25 à 29 ailleurs, jusqu'à 34 à Nîmes.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cet appel, l'établissement français du sang lance une alerte d'urgence vitale pour la deuxième fois seulement de son histoire. Il manque en effet entre 20 et 25 000 poches de sang pour passer l'été. Sans cela, ce sont des milliers de vies, oui, des milliers de vies qui sont menacées. Ludovic a perdu son fils Joseph il y a un an d'une leucémie.
Tout au long de son combat, il a été amené à recevoir des transfusions de sang tous les 2-3 jours et de plaquettes. Le dernier mois de sa vie, il recevait 4 poches de plaquettes par jour, ce qui est énorme. S'il n'avait pas eu l'accès à ces plaquettes et à ce sang, en fait, notre fils serait mort en fait bien plus tôt. C'est vital en fait. On ne dira jamais assez. Il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas juste remplir des corps de sang après un accident. C'est vraiment quelque chose qui sert au quotidien dans les hôpitaux pour les gens qui se battent contre des maladies et des cancers. Donner une heure de son temps avec une aiguille dans le bras pendant 10 minutes, ça permet vraiment de sauver des vies. C'est pas parce que nous on est dans un parc ou sur la plage qu'il y en a pas qui sont en train de se battre pour leur survie dans une chambre d'hôpital et en attente de sang.
Un témoignage recueilli pour RTL par Agathe Landais. 10 minutes pour sauver 3 vies, c'est ce qu'annonce l'établissement du sang. Pour donner, on le rappelle, il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans, de peser plus de 50 kilos. Vous retrouverez tous les points de collecte sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang, pour connaître tous ces points de collecte. Donc.
Autre appel, c'est celui de l'Ordre des médecins.
Et ils demandent ce matin le retour du masque obligatoire dans les transports.
Je serais assez d'accord pour qu'on remette l'obligation dans les transports en commun. Parce que là, quand même, c'est assez facile de cerner l'obligation sur son lieu. Et dans l'efficacité, c'est très positif. Mais c'est pas de mon ressort. Mais je pense que là, il faut être un petit peu plus contraignant parce que c'est là où il y a le risque de transmission.
Il faut être un peu plus contraignant. Voilà ce que dit le docteur François Arnaud, nouveau président de l'Ordre des médecins. Il était au micro RTL d'Odile Pouget. Alors, cette obligation du masque de les transports, elle a, pour l'instant en tout cas, été écartée par Elisabeth Borne, qui réunissait hier les différents préfets et ARS. Ce matin, la première ministre s'est rendue au siège du planning familial. Elle se dit plutôt favorable à l'introduction d'un droit à l'IVG dans notre Constitution.
Quand on voit la fragilité des reculs auxquels on peut assister aujourd'hui, y compris en Europe, avec l'extrême droite qui remet en cause ce droit à l'avortement, on voit l'importance d'inscrire ce droit dans la Constitution au niveau national. On va trouver le meilleur chemin. L'objectif, il est clair, de marquer que c'est un droit fondamental. Le droit des femmes à disposer librement de leur corps est un droit fondamental. On trouvera le bon chemin pour que ce soit inscrit dans la Constitution.
Elisabeth Borne avec Mathilde Piquet, la première ministre qui poursuit ses consultations. Elle doit recevoir cet après-midi l'ERN et LFI. L'idée, c'est de tenter de dégager un consensus, d'éviter en tout cas tout blocage à l'Assemblée nationale, et ce, avant son discours de politique générale prévu a priori mardi. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
On ne sait toujours pas si elle demandera ou non un vote de confiance.
Exactement, j'y vais pas officiellement dans l'entourage d'Elisabeth Borne. On nous indique que la décision n'est pas encore prise, mais dans la majorité, tout le monde ces jours-ci se pose la question, parce que même si ce n'est pas une obligation, tous les premiers ministres depuis 30 ans ont demandé la confiance aux députés, une confiance qu'ils ont toujours obtenue, mais qu'Elisabeth Borne n'est aujourd'hui pas vraiment certaine d'obtenir au vu de sa très courte majorité, car la règle est claire, si elle perd, elle devra démissionner, et son gouvernement avec. Alors les avis divergent, si elle obtient la confiance, ça va la renforcée, encourage un député prêt à prendre les paris. Un autre juge au contraire que c'est trop risqué. L'objectif des consultations avec les partis, c'est justement de savoir qui peut s'abstenir dans l'opposition, explique l'entourage d'Elisabeth Borne. Ces consultations qui vont se poursuivre encore toute cette fin de semaine, avant sans doute d'y voir un peu plus clair au tout début de la semaine prochaine.
Thomas Després du service politique de RTL.
Emmanuel Macron, lui, est à Madrid.
Début du sommet de l'OTAN et une première annonce signée Joe Biden. Le président américain veut renforcer la présence militaire des États-Unis et ce, dans toute l'Europe.
Je viens vous annoncer que les États-Unis vont renforcer leur positionnement militaire en Europe. On a commencé par envoyer 20 000 hommes chez nos alliés pour répondre à la menace des troupes russes et arriver à 300 000 hommes. Je veux prouver que l'OTAN est unie comme elle ne l'a jamais été.
La déclaration de Joe Biden ce matin à Madrid où l'on retrouve Julien Fautra. Bonjour Julien, ce message,
bonjour.
Il est bien sûr directement adressé à Vladimir Poutine.
Oui, une posture de dissuasion. Dissuader, c'est envoyer des signaux et dire qu'on est puissant, m'a dit un militaire. Réponse des États-Unis, 300 000 hommes, 300 000 GI à terme dans les États baltes, en Roumanie, sur toutes les frontières que les pays de l'OTAN ont avec la Russie de Vladimir Poutine. Voilà les chiffres annoncés par le président américain Joe Biden, qui précise aussi que l'armée américaine va établir un quartier général permanent en Pologne, frontière avec l'Ukraine, qu'elle va envoyer deux destroyers supplémentaires qui seront stationnés en Espagne. Un destroyer, c'est un grand navire de guerre qui lance des missiles et qui accueille des hélicoptères. Biden promet une douzaine d'avions de combat en plus, en alerte eux en Angleterre. C'est le remaniement le plus important de notre défense collective depuis la guerre froide, a conclu Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Le Pentagone américain précise dépenser 3,8 milliards de dollars cette année en Europe pour dissuader Vladimir Poutine d'attaquer un membre de l'OTAN.
Julien Fautra, envoyé spécial de RTL à Madrid et Moscou, juge déstabilisateur hein, ses propos et dénonce l'agressivité de l'OTAN à l'égard de la Russie. C'est ce qu'indique un diplomate russe aux États-Unis. Ce qui fait la une ce matin, ce sont ces révélations ahurissantes. Une ancienne assistante de la Maison-Blanche a expliqué au Congrès que Donald Trump avait tenté de prendre le volant de la voiture présidentielle le jour de l'assaut du Capitole, et ce pour rejoindre les émeutiers. Une vraie scène de film. Karine Otten, c'est possible vraiment ?
Alors, c'est parole contre parole, mais vous le savez comme moi, le diable se cache dans les détails et c'est une scène extrêmement détaillée que Cassidy Hutchinson a décrite hier devant la commission parlementaire. Le 6 janvier, Donald Trump aurait fait mine d'empoigner le volant de la limousine présidentielle blindée. Je suis le putain de président, laissez-moi aller au Capitole. Quelques minutes plus tôt, les services secrets avaient en fait refusé sa requête et cela l'avait rendu furieux. Le chauffeur l'a d'abord bloqué et puis, incroyable scène, Donald Trump l'a pris à la gorge. Il sera pénible maîtrisé et ramené à l'intérieur de la Maison Blanche.
Carrie, que peut-il se passer après ces révélations ? Ça peut relancer l'enquête contre Donald Trump ?
Alors, tous les témoignages recueillis par la commission ont une valeur juridique, donc oui, cela pourra être utilisé si une enquête est formellement rouverte, pas seulement contre Donald Trump d'ailleurs, mais aussi contre l'ancien chef de cabinet Mark Meadows, qui avait compris 4 jours plus tôt que les choses allaient vraiment mal tourner le 6 janvier et qui n'a rien fait pour en freiner le cours. Cassidy Hutchinson a vraiment brisé la loi du silence de la Maison Blanche hier. Extraordinaire courage au passage de cette jeune femme de 25 ans qui a reçu un texto tentant de la convaincre de ne rien dire il y a 2 jours. Elle est devenue en un instant la bête noire des supporters de Donald Trump.
Et Karine Otten, la correspondante de RTL aux États-Unis.
À Strasbourg, la suite du procès de Jean-Marc Reiser.
Avec une audience particulièrement émouvante ce matin, les parents de Sophie Le Tan, la victime, ont pris la parole, Yannick Collant.
Oui, c'est la douleur d'une famille qui a submergé ce matin la salle d'audience. La mère de Sophie, en larmes, soutenue par une interprète pour qu'elle ne s'effondre pas. Je voudrais reprendre ma fille, je voudrais qu'elle revienne. Mais comment ? Aujourd'hui, je n'ai plus aucun avenir. Ses pleurs se teintent ensuite de colère. Même les bêtes s'aiment entre elles. Comment une personne humaine a pu faire ça ? Elle raconte encore les heures d'angoisse ce 7 septembre 2018, quand elle a envoyé un message à Sophie à 9h du matin, puis à 10h30 pour son anniversaire. Elle n'aura jamais de réponse. Dans le box, Jean-Marc Reiser n'ose pas la regarder, mais il passe un mouchoir sur ses yeux. Le père de Sophie prend la parole à son tour. C'est une souffrance énorme, c'est inimaginable. C'est comme un petit feu qui brûle tous les jours, tout doucement. Et il se tourne vers le box de l'accusé. Est-ce que l'assassin va enfin reconnaître les faits ?
Yannick Collant, direct de la cour d'assises de Strasbourg pour RTL à Paris. Cet incendie impressionnant ce matin, tout près du Trocadéro. 13 personnes ont été blessées, dont 2 en urgence absolue. Chloé est commerçante et elle a vu des gens sauter par la fenêtre pour tenter d'échapper aux flammes.
En fait, je suis arrivée ce matin à 8h30 pour faire l'ouverture de mon salon et il y a eu beaucoup de flammes, de fumée. Enfin, j'ai vu une personne en tout cas sauter. Donc du coup, après, il y en a un qui a sauté, un deuxième, un troisième. Et après, moi, j'avais l'obligation de me reculer avec tous les autres commerçants. Et c'est horrible de se dire, les gens, ils ont sauté pour se dire soit je survis ou soit ils ont sauté pour se dire j'ai le feu derrière. Donc est-ce que je saute ? J'aurais peut-être la chance d'avoir une fracture et de me dire bon, bah, je vais survivre ou je prends feu, quoi.
Un témoignage recueilli pour RTL par Clément Terrain 1. Et puis Pascal, est-ce que vous connaissez Yuka ?
J'ai entendu parler.
Alors, une application, on le dit pour tout le monde, qui permet, de, quand on fait ses courses, de connaître la qualité d'un produit, savoir s'il est bon ou non pour notre santé. Un consommateur sur quatre utilise ce genre d'application. C'est énorme. Et pourtant, toutes ne se valent pas. Bonjour Anaïs Bouisson.
Bonjour.
Les sénateurs réclament d'ailleurs plus de transparence.
Oui, ça devient urgent, hein, car non seulement 25% des consommateurs scannent leur yaourt, shampoing ou produits d'entretien, mais en plus, l'impact est réel sur les comportements. Avec Yuka, 9 utilisateurs de l'application sur 10 préfèrent reposer directement en rayon un produit mal noté. Ils ne l'achètent pas. Alors vous me direz, c'est très bien quand les notes sont fiables, mais les applications se sont tellement développées qu'on ne sait pas qui note quoi ni comment. C'est pour la fiabilité de ces notations que les sénateurs veulent légiférer. Écoutez Fabien Gay, le rapporteur sénateur de la Seine-Saint-Denis, au micro d'Armel Lévy.
Nous voulons la transparence des données, notamment lorsque des applications proposent des alternatives à un produit. Certaines, par exemple, appellent clairement à des boycotts de produits. On peut avoir très vite des abus et, par exemple, avoir tel agro-industriel qui paye beaucoup de publicité pour telle application et qui ferait en sorte que tous ses concurrents soient mal notés et qu'à chaque fois, on vous propose l'alternative de l'agro-industriel.
Et effectivement, un côté fiabilité. Il y a encore du travail. Je vous donne l'exemple d'un déodorant à la pierre d'Alain passé au crible par une marque sur 5 applications. Elle était notée médiocre sur Yuka. Elle était dans le vert chez Cosmétiques.
Ah oui.
Et l'appli Clean Body de son côté détectait, je cite, des ingrédients controversés. Pareil, un cordon bleu en supermarché, il pourra très bien avoir un Nutri-Score classé B, donc mangeable. Et une note Yuka dans le rouge, la grosse cata, car il y a des additifs. Vous voyez, résultat, pas la même note, pas les mêmes mesures. Et à la fin, quand on compare, on n'y comprend plus rien.
Et il est donc temps de faire le ménage. Merci à vous Anaïs Bouisseau pour cette démonstration.
Notre premier sujet dans une seconde, le procès des attentats du 13 novembre et ce verdict attendu ce soir. Est-ce que vous avez changé votre comportement ?
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je pensais pas venir en fait, je suis venue un peu malgré moi parce que j'ai accompagné un ami que je devais déposer à la porte. Je me suis retrouvée dans cette salle et là, voilà, le couvercle s'est refermé sur moi. C'est-à-dire que d'abord, je me suis assise au fond et j'ai vu tous ces gens qui s'étaient brûlés à la même flamme que moi. Ensuite, il y a les accusés qui se sont levés pour se présenter. Je les avais jamais vus parce que jusqu'alors, je m'étais pas intéressée aux faits. J'avais géré que mon chagrin. Donc, je les ai vus se lever. Je me suis dit, OK, j'ai aussi rendez-vous avec mon traumatisme ici. Et ensuite, voilà, le président a égrené le nom des victimes. Je me suis dit, OK, on convoque aussi les fantômes. Donc, tout le monde est là. Quand Salah Abdeslam prend la parole, moi, j'ai une réaction physique assez, assez dense, quoi. C'est-à-dire que c'est tout mon corps qui se raidit. Mais après, je sais pas si c'est lié à ce qu'il a potentiellement pu faire ou pas faire, on ne sait pas, voilà. Ou si c'est lié à sa personnalité qui est quand même un petit peu particulière, quoi.
Ce témoignage, c'est celui d'Aurélie. Le 13 novembre, elle a perdu son compagnon Mathieu au Bataclan, le père de son fils et du bébé qu'elle attendait à l'époque. Ce procès, vous l'avez entendu, elle pensait ne pas y assister. Il la marquera finalement à jamais. Alors que le verdict est attendu ce soir, RTL Midi a voulu donner la parole à celles qui ont suivi cette audience pour RTL, Cindy Hubert et Anne Le Hénaff. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour à tous.
Quelle est l'image qui vous a, vous, le plus marqué, celle que vous garderez de chacune de ces 10 mois d'audience ?
Eh bien, je crois que ce n'est pas une image, en fait, mais c'est du son, le son de l'attaque au Bataclan, vous vous en souvenez peut-être. Il se trouve qu'un technicien avait laissé un dictaphone le 13 novembre, quelque part dans la salle de concert. Ce qui veut dire que depuis le début, la police a toute la bande-son de l'attentat. Alors, on n'en a écouté que quelques minutes, mais je vous assure que c'est quelque chose d'entendre les tirs de Kalachnikov qui résonnent assis à quelques mètres de ceux qui ont survécu, ou de percevoir au loin cette femme qui supplie dans la fosse et qui se fait achever la seconde d'après. Et d'ailleurs, cela a fait l'objet de grands débats ici. Qu'est-ce qu'il faut cacher, montrer au tout début de ce procès ? La cour a pris beaucoup de précautions, puis à la demande de partie civile, on a vu récemment une cinquantaine de photos, en plus du bataillon Bataclan. Et la bande-son a été versée au dossier, ce qui veut dire que tous ceux qui le souhaitent peuvent désormais l'écouter en entier.
Et vous, Anne, qu'est-ce qui vous a marqué ?
Alors moi, c'est l'image d'une jeune femme qui s'appelait Émilie. Elle a témoigné un soir d'octobre dans ce long tunnel de témoignages de toutes les victimes. Elle avait les cheveux très courts, une marinière. Elle n'a pas été blessée. Elle s'est cachée dès le début des tirs au Bataclan. Elle n'a pas perdu de proches. Et pourtant, on l'a entendue à la barre déverser une immense souffrance. Elle tremblait, elle pleurait. Elle avait beaucoup de mal à parler. C'est un peu ce qu'on a appelé les balles invisibles. C'est-à-dire cette incapacité qu'ont beaucoup de parties civiles à vivre depuis. Par exemple, elle n'arrivait pas à s'occuper de son fils. Elle était totalement détruite psychiquement et elle souffrait aussi, je pense, de la culpabilité du survivant. C'est-à-dire, je vais pas bien, mais je peux pas me plaindre parce que moi, j'ai rien eu. On a aussi entendu d'autres parties civiles dire « je suis vivant parmi les morts » ou « mort parmi les vivants ». Donc autant moi je m'attendais, je m'étais préparée autant que possible à entendre des choses horribles, de voir des corps déchiquetés, des deuils impossibles. Et on en a eu évidemment notre lot, mais se rendre compte à quel point des gens qui n'ont été ni endeuillés ni blessés sont par terre depuis 6 ans et n'arrivent pas à remonter, ça m'a beaucoup marquée. Je pense que c'est un peu aussi ça le terrorisme, la terreur qui pèse encore sur ces gens aujourd'hui.
La cour délibère 5 magistrats enfermés depuis lundi dans un lieu tenu secret, Cindy Hubert.
Une caserne quelque part en Île-de-France, interdiction d'en sortir jusqu'à ce qu'ils se soient mis d'accord sur un verdict. 2 nuits sur place, donc livraison de plateaux repas, et cela prendra le temps que cela prendra, a prévenu le président. Qui sait à quel point cette décision est attendue? La cour va devoir détailler le rôle de chaque accusé, et vous imaginez que ce n'est pas simple quand on pense que le dossier fait 1 million de pages. Et que nous sortons d'une audience de 148 jours. Pour le moment, le verdict est attendu ce soir ou cette nuit.
Anne, l'un des enjeux de ce verdict, c'est perpétuité réelle ou pas pour Salah Abdeslam notamment.
Oui, c'est l'accusé le plus célèbre des 14 présents. C'est le seul survivant des commandos et c'est la peine qui a été demandée à son encontre par le parquet antiterroriste. Ça veut dire une vraie perpétuité avec un tout petit espoir de demander un aménagement de peine d'ici 30 ans. Et il sera quasiment impossible à accorder puisqu'il faudra réunir des commissions, des experts, des médecins et demander l'avis des victimes. En fait, cette peine, elle n'a été appliquée que 4 fois en France pour des psychopathes tueurs d'enfants. Les avocats d'Abdeslam ont dit c'est une sorte de mort blanche que vous demandez à son encontre. Ils s'attendent certes à une peine plus lourde, mais pas la plus lourde possible. Pour celui qui aurait certes pu tout empêcher, mais qui n'a pas tué le 13 novembre, il l'a dit lui-même, hein, c'est une peine à la hauteur des faits commis, mais pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box.
Cindy, c'est important pour les victimes, évidemment, ce verdict.
Alors oui et non, pas pour les peines, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais la plupart des victimes, elles n'ont pas d'attente spéciale sur les peines. On ne réclame pas vengeance. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est pardonné, comme dirait Charlie Hebdo. Mais je crois qu'il y a 2 choses. Déjà, évidemment, les assassins des commandos sont morts, mais même s'il reste Salah Abdeslam, même s'il y a dans le box, et c'est rare d'ailleurs, de gros poissons, des combattants de l'État islamique, des combattants aguerris qui devaient commettre des attaques en Europe, eh bien, ce n'est pas pareil que d'avoir la personne qui a tiré sur son fils, sans doute. Et puis, l'immense majorité des parties civiles fait confiance à la justice, tout simplement. Je pense à ce père qui me disait « Heureusement que ce n'est pas moi qui dois juger ». Le président de la Cour, il a su tenir le cap en 10 mois. Et je crois que les parties civiles, ce soir, elles sont prêtes à accepter le verdict, quel qu'il soit.
Alors, ce soir, il y aura peut-être une page qui se tourne, mais pas forcément. Parce que tous ces accusés pourront faire appel. Et on imagine de nouveau un procès de 10 mois. Et c'est peut-être pour cela que Abdeslam n'aura pas la peine la plus forte, d'une certaine manière, parce que ça pourrait le dissuader de faire appel et de ne pas repartir vers un nouveau procès fleuve.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y aura nécessairement un appel parce qu'on a une telle différence entre les plaidoiries des côté défense et les réquisitions qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un appel sur les 14 accusés.
Donc, il y aura de nouveau 10 mois de procès, 1 million de pages, comme vous l'avez dit.
Peut-être pas 10 mois, mais c'est sûr et certain qu'il y aura un procès en appel. Après, sur le sort de Salah Abdeslam, il ne faut pas oublier que de toute façon, un autre procès l'attend, hein, puisqu'il est aussi impliqué dans les attentats de Bruxelles, qui veut dire qu'à l'automne, il y a un autre procès qui l'attend. Vous savez, hein, c'est le 22 mars 2016, les attentats de Bruxelles. Et là aussi, il risque encore la perpétuité. Donc, quoi qu'il arrive, le sort pénitentiaire, j'allais dire, de Salah Abdeslam, il est scellé, il va passer sa vie en prison.
Procès en Belgique la prochaine fois également ? Procès en Belgique ?
Absolument.
Ou en France ?
Donc c'est
en Belgique.
en Belgique, à l'automne, voilà, qui va durer, encore une fois, on est sur un autre procès fleuve, on est sur un procès qui pourrait durer entre 6 et 9 mois. Il n'y a pas que lui qui est jugé, il y en a 5 là des 14, puisque encore une fois, c'est une seule et même cellule, hein, c'est les mêmes commandos. Et toute la question a été d'ailleurs ici à ce procès de dire, mais pourquoi on n'a pas fait qu'un seul procès?
C'est tout groupé. Anne-Le Hénaff, juste un dernier tout petit mot. On a entendu beaucoup de victimes ou de parties civiles ces derniers jours dire ça risque d'être un grand vide après à l'énoncé du verdict.
Ben oui, parce qu'elles ont vécu ensemble pendant 10 mois, elles ont vécu quelque chose d'assez incroyable pendant ces 10 mois, et demain elles vont reprendre, si on peut dire ça comme ça, une vie normale, et tout le monde appréhende un peu en fait cet après-procès. C'est la béance de l'après-procès, a dit un avocat. Les avocats aussi, hein, ils ont vécu ensemble ces 10 mois d'audience, il y a des liens qui se sont créés, ils ont écrit des plaidoiries en commun, ça c'était pas vraiment vu. Pour tous les professionnels qui ont vécu ces 10 mois d'audience, y compris les journalistes, hein, nous aussi, un procès aussi long, aussi douloureux, aussi technique, on n'a jamais vécu ça. Donc pour tout le monde, c'est une page qui se ferme, un chapitre nouveau qui va s'ouvrir demain. Et pour Cindy et moi, c'était important d'y aller quasiment chaque jour à ce procès pour faire vivre aux auditeurs d'RTL ce procès vraiment historique.
Et j'imagine que pour vous qui suivez l'actualité judiciaire, il y aura eu un avant et un après ce procès. Merci Cindy, merci Anne. Et
merci,
on vous retrouve dans nos prochaines éditions, évidemment, pour commenter, peut-être dès ce soir, ce verdict. Alizée Cornet qui explique que chacun était, pas chacun d'ailleurs, mais que beaucoup de tenniswoman et tennisman avaient le Covid pendant Roland-Garros, mais qu'ils n'ont rien dit. Eric Silvestro va nous expliquer tout ça. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Tout le monde a eu le Covid sans le savoir à un moment donné. Bah, quand on voit que Krejcikova se retire en disant j'ai le Covid et que tout le vestiaire est malade, à un moment donné... Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un accord tacite entre nous. On ne va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment donné, il faut être logique. Quoi.
Oui, il y a sans doute eu des cas de Covid à Roland-Garros, mais on n'a rien dit. Les mots d'Alizée Cornet hier en conférence de presse à Wimbledon en ont surpris plus d'un, qui plus est, alors que l'épidémie semble repartir après 2 ans de pandémie. Sport et prévention ont toujours bien du mal à trouver un terrain d'entente. RTL Midi a donc choisi 2 sports d'actualité, tennis et cyclisme. Eric Silvestro, bonjour.
Bonjour à tous.
On va d'abord parler tennis avec vous. Il y a vraiment des joueurs qui ont joué à Roland-Garros tout en étant positifs au Covid?
Oui, sans doute, hein, sûrement même, mais pas forcément en le sachant, ou du moins sans chercher à le savoir. Ah,
c'est pas la même chose.
Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un mois et demi, il faut se rappeler que le contexte sanitaire n'était pas le même, que tous les voyants étaient au vert, que Roland-Garros s'est disputé.
Il y avait plus de contamination qu'aujourd'hui, il y a un mois et demi.
Il y a un mois et demi, il n'y avait pas de restrictions.
Mais on n'en parlait pas, c'est ça qui est fascinant d'ailleurs.
Non, mais il
n'y
avait pas
100 000
cas comme on a connu.
Mais comment, il y en avait plus. C'est ça qui est...
Mais durant la campagne. On ne le savait pas, Pascal.
Mais durant la... voyez les chiffres. Durant la campagne électorale, il y avait plus de cas en quotidien qu'aujourd'hui. Et on en parle plus aujourd'hui.
Alors en tout cas, il y avait une jauge à 100% pour le public à Roland-Garros. C'est un tournoi du Grand Chelem. Les joueurs et les joueuses, évidemment, ils veulent le disputer. Il n'y en a que 4 dans l'année. Il y a 62 000 euros, on le rappelle, au premier tour, même en cas de défaite. Donc voilà, tout le monde avait envie de jouer ce tournoi et tout le monde l'a disputé.
On rappelle qu'à Roland-Garros, comme à Wimbledon en ce moment, je suis en train de regarder les chiffres, il n'y a pas de protocole sanitaire particulier. Donc finalement, sur le papier, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas de faute de la part des joueurs.
Absolument aucune. Pas de test, ni de masque obligatoire, pas de passe vaccinal, rien n'est ou n'était imposé. Comme pour vous et moi d'ailleurs, depuis le début du mois d'avril. Et donc, à moins de se sentir incapable de jouer ou d'avoir des symptômes et de se tester volontairement, eh bien, il n'y avait pas de raison de se retirer du tournoi.
C'est en mars-avril que cas étaient comparables à ceux d'aujourd'hui.
135 000 cas le 28 juin hier. Donc hier, il y avait un petit rattrapage avec le week-end.
Regardez le 20 mai,
et la dernière fois, le 20 mai, attendez, je suis dessus, bougez pas, on fait ça presque en direct. Le 20 mai, on était à 19 000 cas, Pascal. Bah, c'est pas la même histoire.
La campagne électorale était terminée.
Oui, mais on était à Roland-Garros.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous.
On disait, en plein Roland-Garros, vous nous disiez, il y a bien plus de cas. C'est pas le cas. L'autre événement du moment, c'est le Tour de France, départ vendredi, on le rappelle, depuis Copenhague. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour à tous.
Vous êtes déjà sur place pour RTL. L'Union cycliste internationale, l'UCI, a publié hier son protocole sanitaire. Et là aussi, en tout cas sur le papier, on risque de se retrouver avec des sportifs positifs qui restent en course, c'est ça ?
Oui, même si dans les faits, c'est pas automatique. D'abord, faut préciser que aucun coureur ni membre d'encadrement d'équipe prendra le départ après-demain en étant positif, parce que
tout le monde sera testé avant.
Prévus d'ici là, voilà, plusieurs fois, et qui sont des tests obligatoires. Après, si un coureur est testé positif en étant asymptomatique sur une journée de repos, par exemple, dans 10 jours, il y aura là une décision qui sera prise par un collège médical, le médecin de l'équipe, le médecin du Tour de France, le médecin également de l'Union Cycliste Internationale. Et là, ensuite, il faudra voir la chaîne de contamination ou pas. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ce coureur-là, il est de nouveau testé et tous les autres coureurs de son équipe sont également testés. Et si c'est très isolé, ou bien si malheureusement il y a d'autres coureurs qui ont été touchés, ce coureur-là et ces autres coureurs ne resteront pas dans le peloton. Donc c'est pas écrit, c'est pas automatique que même en étant asymptomatique et en étant positif au Covid, le coureur restera dans le peloton.
Ce qui est différent, c'est que là, sur le Tour de France, il y a des tests, alors qu'en tennis, il n'y en avait pas. Mais elle a rétro-pédalé un peu, Alizée Cornet. Elle a fait un tweet derrière sa déclaration. Elle a dit, j'ai dit que je soupçonnais quelques cas de Covid pendant Roland-Garros sans avoir aucune preuve. C'était avant tout pour souligner que le virus faisait partie de notre vie et qu'il fallait vivre avec. Parce qu'effectivement, il y a presque un problème juridique pour elle. La Fédération française de tennis pourrait réagir. Le ministère des Sports pourrait réagir.
Alors c'est-à-dire on les a appelés, ils ne veulent pas commenter.
Hein. Bah, évidemment. Pour l'instant, pas de commentaire. Mais évidemment, le tournoi s'est bien déroulé. Pour eux, ils voulaient du public, ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas.
Ils ne veulent pas de polémique. Parce que si des joueurs ont joué en sachant qu'ils étaient positifs, ça pose forcément un problème moral.
Nicolas, j'imagine que les différentes équipes qui vont prendre le départ du Tour ont pris un certain nombre de précautions.
Oula, oui. Oui, parce que là, effectivement, il y a c'est sécurité maximale de ce côté-là. Mais juste un exemple, ce matin, on était avec l'un des favoris, Primoz Roglic, le Slovène. Maintenant, quasiment toutes les équipes ont basculé en visioconférence, donc ne viennent pas à la rencontre de la presse, mais restent à leur hôtel. Mais même lui, à l'intérieur de l'hôtel, il gardait le masque pour la visioconférence. Parce que même lui, quand il déambule dans l'hôtel, ils font très attention parce que le personnel de l'hôtel n'a pas de masque et donc il garde le masque et ça montre aussi que toutes les précautions sont prises maintenant à 48 heures du départ.
Merci Eric Silvestro. Mais... merci Nicolas Georgerot. Vous êtes déjà sur place, Nicolas?
Ben oui. Ah ben oui, depuis...
À Copenhague?
À Copenhague.
Exactement, vous avez vu la petite sirène?
Oui, j'ai vu la petite sirène. Oui,
c'est la seule qui ne fait pas de vélo à Copenhague.
À son rocher.
Il est 12h59. C'est la seule habitante de Copenhague qui ne fait pas de vélo. La pause, à tout de suite. RTL.